Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la troisième saison des Héros anonymes. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver et de vous présenter des personnes qui font une grande différence dans le quotidien de centaines, voire de milliers de personnes. Au moment de la première diffusion de cet épisode, nous sommes déjà à la deuxième semaine d'école pour de nombreux jeunes qui doivent s'adapter à de nouveaux enseignants, de nouveaux apprentissages, une nouvelle classe et parfois même une nouvelle école. Certains, toutefois, ont l'âge d'être à l'école, mais n'y vont plus depuis quelques années. On les appelle souvent les décrocheurs. Or, souvent, ces jeunes n'ont pas seulement décroché de l'école, mais aussi de la société en général. C'est pourquoi l'école de rue « Je raccroche » à Rimouski enseigne différemment à ceux pour qui le programme scolaire habituel est moins adapté. J'aurai le plaisir de rencontrer en deuxième bloc le directeur général et fondateur de Je raccroche Rimouski, Michel Lessard. Tout d'abord, je discuterai avec Mélanie Gauthier, directrice générale de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges, qui soutient les personnes qui vivent une déficience intellectuelle ou physique ou encore qui se situent dans le spectre de l'autisme. En plus des programmes d'aide, on souhaite sensibiliser davantage la communauté à ce que vivent ces personnes, leurs enjeux, et faire voir comment la différence contribue à une société diversifiée et encore plus inclusive. Après la pause, Mélanie Gauthier de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Notre première invitée au Héros anonyme cette semaine s'appelle Mélanie Gauthier. Elle est la directrice générale de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. On va prendre le tour vraiment de bien expliquer ce que fait l'organisme et ses particularités parce qu'il y a d'autres organismes qui portent le nom Parrainage civique, mais celui de Vaudreuil-Soulanges là, couvre assez large là, dans le soutien, l'aide, l'intégration des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, physique ou encore dans le spectre de l'autisme. Tout d'abord, bienvenue Mélanie.
Bien, merci beaucoup, Chantal.
Je crois que vous connaissiez déjà par personne interposée Canalem.
Absolument. Ma fille a eu la chance de faire un stage ici ou de travailler l'été dernier, oui. Puis en apprendre un petit peu plus. Donc, elle nous a grandement sollicité à écouter et à comprendre un peu les valeurs de Canalem.
Oui. Bien, en fait, on se situe évidemment dans l'inclusion. Et c'est important pour nous de faire en sorte que chacun de nos animateurs, nos partenaires, vive une des facettes de l'inclusion. Peut-être nous parler un peu des défis que vit Anaïs.
Anaïs vit avec une paralysie cérébrale, donc qui est tout à fait physique et non intellectuelle. Donc, elle vit des défis d'ordre physique tous les jours, un peu partout, dans son quotidien, dans son apprentissage au niveau des études et puis dans son volet social. Aussi, donc elle a des défis à tous les égards, mais de type physique.
Oui. Bien, c'est sûr qu'au niveau intellectuel, notre recherchiste Catherine Bourderon, qui est attitrée à notre émission, a eu l'occasion de collaborer avec Anaïs et a tellement apprécié son travail qu'elle a eu l'occasion là, d'en dire un bon mot à la première chaîne. Et je crois qu'Anaïs y œuvre maintenant à Radio-Canada.
En fait, elle a fait un stage. Oui. Puis pour l'instant, elle est retournée à l'université. Elle fait des petits contrats ici et là. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qu'elle aimerait beaucoup retourner vers la première chaîne.
Oui, excellent. Bien, c'est en fait un peu notre mission d'intégration aussi à Canalem parce qu'on aime être cohérent avec les propos que l'on tient en onde. Et Mélanie, est-ce que le fait d'être mère d'une jeune femme qui est atteinte d'une d'une, ben, en fait, une déficience physique. Comment ça vous a préparé au travail que vous avez maintenant?
En fait, c'est directement relié parce que avant d'avoir Anaïs dans ma vie, j'étais éducatrice à la garderie, donc pas du tout dans le domaine. Quand j'ai Anaïs est arrivée dans ma vie, donc on a été témoins de différentes lacunes et difficultés. Puis je me suis dit, j'aimerais ça faire partie de la solution. Donc, je suis retournée aux études à 30 ans avec trois enfants pour finalement m'aligner dans un domaine qui est l'éducation spécialisée pour faire partie du changement.
Vous avez vraiment pris ça à bras-le-corps pour...
Tout à fait, tout à fait.
Parce que j'imagine, comme éducatrice en garderie, habituellement, est-ce que les profils, est-ce qu'on vise la mixité? On est souvent plus dans des jeunes qui ne vivent pas avec...
Exactement, neurotypique. Donc, moi, j'ai visé l'intégration pour ma fille à la garderie où est-ce que je travaillais. Ce n'était pas toujours facile. Oui, de plus en plus maintenant, on voit des jeunes qui sont intégrés, mais c'est un travail de tous les jours pour les parents pour s'assurer vraiment d'une bonne intégration dans un milieu qui dit « normal
». Et c'est un peu, je vois dans la mission de l'organisme, dans les services, que oui, il y a tout le volet d'aide et de soutien aux personnes qui sont qui doivent composer avec ces défis, mais aussi tout le volet intégration qui vous tient à cœur.
Tout à fait. Nous, la mission première, c'est vraiment l'intégration et l'inclusion dans chacune de nos activités. Tout dépendant de l'activité, on s'assure toujours qu'il y a des gens à l'extérieur, puis faire la promotion aussi, et un peu d'éducation face à ça, parce que c'est ça, l'intégration, c'est de faire l'éducation des gens pour leur montrer qu'on est capable de faire toutes sortes de choses malgré le fait qu'on ait un handicap.
Oui. On va pousser un peu chacun de ces axes-là. Donc, peut-être c'est ça, parrainage civique, Vaudreuil-Soulanges. Moi, c'était pas la première fois que j'entendais le mot parrainage civique. Je sais, entre autres, qu'il y a certaines personnalités qui ont appuyé ce type d'organisation-là, mais j'ai appris que vous étiez au-delà du jumelage.
Absolument. Donc, dans Vaudreuil-Soulanges, on dessert toute la population de 4 à 21 ans et de 18 ans et plus. Donc, on a des services qui se chevauchent avec toute la clientèle déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme sur différents paliers. Donc, on fait, oui, le loisir. On fait aussi des services d'activité de jour qui sont le 21 ans et plus après l'école et puis tout le volet enfant. Donc, on est vraiment, oui, le jumelage, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des bénévoles. Donc, on s'est retourné un peu vers les services qui sont un peu différents, mais qui desservent la clientèle toujours dans un but d'inclusion et d'intégration.
Comment s'est fait cette évolution-là? Est-ce que, vu que vous portez le nom parrainage civique, ça a d'abord démarré avec des services de jumelage?
En fait, ça l'a démarré il y a quand même plus de 40 ans. Oui, un peu avec le jumelage, mais ça a été vraiment difficile tout au long des années de faire ce type de jumelage-là. Donc, ça s'est fait, mais il a fallu greffer certaines autres activités pour arriver financièrement à offrir des services. Donc, ça a toujours été plutôt difficile dans Vaudreuil-Soulanges d'avoir un grand bassin de bénévoles pour le jumelage, mais toujours soutenu avec toutes les autres activités qu'il y a autour.
Puis juste pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça implique, un jumelage?
Un jumelage, c'est pas compliqué, c'est 3 heures par mois qu'on demande à nos jumelés. Donc, 3 heures, soit téléphone, souvent aller voir un film, aller au restaurant. Donc, 3 heures, c'est très rapide, mais c'est seulement ça qu'on demande, 3 heures d'amitié. C'est toujours dans le but de l'amitié. On ne veut pas que ça soit parent-enfant. On ne veut pas qu'il y ait une certaine échelle dans cette relation-là. On veut vraiment que ça soit 2 amis qui font des activités avec des intérêts communs.
J'aime bien comment vous l'amenez. Donc, quel type? Parce que 3 heures, on se dit, ben oui, ça se place bien dans un agenda. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'aller chercher des bénévoles?
Je pense que de notre côté de Vaudreuil-Soulanges, on est maintenant dans un volet un peu plus multiculturel. Donc, il y a un changement de culture dans la communauté. De plus, Vaudreuil-Soulanges est extrêmement grand comme territoire. Donc, on a un volet qui est un peu plus rural. Donc, il faut vraiment aller chercher notre monde différemment maintenant. Et puis, il y a tout l'aspect du français, de l'anglais, différentes langues maintenant qui s'ajoutent. Donc, il y a vraiment un développement de ce côté-là. Par contre, de notre côté, où est-ce que les gens apprennent le français très rapidement, puis là, ça devient de plus en plus facile. Mais on a plus de bénévoles ponctuels qu'il y a de bénévoles de parrainage-marrainage qui demandent un peu plus à long terme, parce que c'est ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment de laisser à long terme pour qu'il y ait une belle relation. Mm-hmm. Donc, on a des bénévoles ponctuels. Mais le bénévolat de type parrainage-marrainage est un peu plus difficile compte tenu du temps qu'on demande.
Quand vous parlez des langues, je me dis peut-être que c'est une belle occasion dans un contexte de relation amicale, on apporte un soutien, par exemple, à une personne qui a un handicap physique qui peut nous aider à pratiquer notre français.
Tout à fait. Tout à fait. On a même eu une dame qui est venue faire des cours de baladie, donc qui est arrivée un peu avec toute sa culture. On trouve ça super intéressant aussi. Les percussions, on a eu quelqu'un qui est venu faire des percussions. Donc, on utilise aussi ce côté-là pour assurer une espèce de mixité intéressante au niveau des cultures. On trouve ça super intéressant. Puis dans Vaudreuil-Soulanges, il y a quelque chose qui est mis de l'avant par rapport à la culture. Donc, on utilise tout ça pour en faire un beau jumelage avec nos services.
Bien, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu plusieurs activités de médiation culturelle dans Vaudreuil-Soulanges.
Absolument. Vaudreuil-Soulanges est très, très... En fait, Vaudreuil-Dorion a un grand volet culturel. Donc, nous, à chaque année, on dépose des projets de médiation culturelle. Donc, on va en avoir un autre aussi à l'hiver avec des artistes de la région qui sont impliqués avec la clientèle, qui connaissent de plus en plus notre clientèle. Mais oui, on a au moins un projet par année de médiation culturelle, soit avec la ville, soit avec d'autres villes, parce que nous, on est dans Vaudreuil, mais souvent, on peut en avoir dans d'autres villes où est-ce qu'on va participer à des projets de ce type-là.
Mais là, on est vraiment dans l'inclusion. On est autant dans la médiation culturelle que dans la compréhension d'une différence avec le quotidien des personnes qui fréquentent Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Okay. Est-ce qu'on peut faire un appel aux bénévoles s'il y a des gens qui sont
absolument,
de la région?
Absolument. Ouais. Donc, nous, on cherche vraiment des bénévoles de différents horizons pour s'assurer d'offrir le plus de services possibles ou de différences. Nous, ensemble, on se ressemble. C'est vraiment notre créneau maintenant. Donc, on essaie vraiment d'amener des activités qui sont pas nécessairement connues, mais qui vont faire que nos membres vont pouvoir découvrir différentes choses au travers de ça.
Donc, on a bien couvert, je crois, l'aspect jumelage. On va prendre le temps de comprendre mieux les autres volets. Donc, on parle, vous disiez qu'il y a des services qui se chevauchent, 4 à 21 ans, 18 ans et plus. Comment ça se répartit?
En fait, le 4 à 21 ans, on parle beaucoup de services, soit de répit, donc on offre du répit, mais aussi tout ce qui est le volet camp d'été.
Le répit, il est offert pour les parents?
Absolument. Ah, oui. Donc, les jeunes peuvent venir le samedi ou le dimanche. Ils ont des journées complètes de répit pour pouvoir justement offrir aux parents des activités, soit avec la fratrie ou justement les parents ensemble. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'installe tranquillement. C'est pas facile pour les parents. Le besoin est beaucoup plus en dodo en ce moment. On a besoin des nuits de répit, ce qui n'est pas offert chez nous pour le moment, mais le répit est quand même quelque chose d'essentiel pour nos parents. Donc, le 4-21 ans, on a beaucoup le répit. Et puis, par la suite, on a tout ce qui est, c'est ça, les camps d'été qui sont un peu plus spécialisés avec des ratios un peu plus réduits parce que la clientèle multi-handicapée. Donc, on accueille des jeunes avec des problématiques très importantes, des niveaux de soins très avancés. Donc, on a vraiment un camp très adapté à leurs besoins. Donc, on part du 4-21 ans. Puis, tout ce qui est service de surveillance, donc après l'école, avant l'école, les horaires au secondaire sont très différents du primaire. Donc, on offre un service qui est un peu comme un service de garde, mais pour les jeunes de 12 à 21 ans. Donc, ça, c'est un autre service qui est offert. Puis, le 18 ans, 18-21, c'est un peu la transition entre l'école et la vie active. Donc, on travaille un peu entre les deux. Donc, on fait de l'intégration des jeunes de 18 ans jusqu'à 21 ans pour éventuellement pouvoir entrer dans nos services qui sont 21 ans et plus.
Est-ce que pour certains d'entre eux qui seraient en mesure un jour d'aller habiter en appartement, est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres organismes pour les préparer à la prochaine étape?
En fait, les services sont plutôt offerts par le système public. Donc, c'est un peu plus de ce côté-là. Par contre, l'organisme en ce moment, puis je trouve ça bien qu'on en parle, est en restructuration pour savoir vers quoi on s'en va. Dans notre coin, il n'y a pas beaucoup d'appartements de type supervisé. Mm-hmm. Donc, on veut vraiment miser sur un type d'hébergement ou un milieu de vie, en fait, qu'on aimerait bien pouvoir développer par la suite pour nos différentes clientèles. Donc, ça existe plus ou moins ou plus limité dans les choix. Par contre, nous, c'est vers ça qu'on veut aller pour justement que les parents puissent avoir le choix et puissent rester dans la région aussi, parce que ça, c'est un autre enjeu. Mais vraiment, c'est quelque chose vers quoi on veut aller.
Parfait. Mélanie, on fait une courte pause, puis on va creuser un petit peu plus cet aspect-là de l'hébergement, parce que je pense qu'il y a des projets aussi en cours qu'on va vouloir présenter.
Parfait.
Chantal Doré ici au micro des Héros anonymes, de retour en studio avec Mélanie Gauthier de Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges. Mélanie, on a parlé un peu dans le premier bloc qu'il semble y avoir là, une concentration des besoins vers une forme d'hébergement, parce que premièrement, s'il y a un besoin au niveau des dodos, ben, il faut être capable de les accueillir. Et d'un autre côté, chez les jeunes qui grandissent et qui auraient la possibilité de vivre seuls, ben, ça prend des installations aussi pour pouvoir le faire. Donc, quels sont vos projets en matière d'hébergement?
En fait, en ce moment, on est vraiment en évaluation des besoins, à savoir le nombre de personnes qui pourraient avoir de besoins. De plus, la région est scindée en deux chez nous, donc Vaudreuil et Soulanges. Mm-hmm. Donc, ce sont deux milieux de vie qui sont tout à fait différents les uns des autres. Donc, ça aussi, c'est une part à évaluer, à savoir, bon, est-ce qu'on veut que nos jeunes ne soient pas déracinés du tout de leur environnement? Donc, on regarde pour plus d'un hébergement, évidemment, mais on veut vraiment un milieu de vie où les différentes clientèles pourraient être mixées. Donc, on parle de jeunes lourdement handicapés, mais aussi de jeunes tout à fait autonomes qui ont juste besoin d'un peu de supervision pour y arriver. En ce moment, on dessert déjà des gens qui sont en appartement. C'est un peu ce qu'on fait. On fait du soutien à domicile. Par contre, il y en a certains qui ne pourraient pas vivre tout seuls, mais qui auraient la possibilité d'être dans un petit logis où est-ce qu'il y aurait une supervision. C'est vers ça qu'on veut aller, cette espèce de vie-là d'une petite communauté qui pourrait vraiment s'entraider. C'est vers ça qu'on veut aller.
Mais je comprends que c'est ça, c'est multiple, vos champs d'intervention, parce que déjà les types de clientèle, mais aussi je crois que le territoire, bon, on parlait qu'il y a des défis particuliers, rural et tout ça, c'est quand même, ça couvre quand même MRC 27 villes.
Absolument, donc c'est l'enjeu le plus important, parce que effectivement 27 villes, mais de façon rurale ou non, l'accès au transport aussi, c'est un enjeu très important dans notre petit coin de pays, donc ça aussi, ça devient... très difficile à jumeler. Donc, il faut trouver des solutions pour essayer que tout ce beau monde-là puisse avoir des services sans être pénalisé de par où est-ce qu'il habite.
Donc, ce serait quoi la prochaine étape pour réussir à avoir accès à ces hébergements-là, ces lieux d'hébergement?
Le financement. Le financement, évidemment. Ah, on a commencé à faire des petites démarches tranquillement, mais c'est mon plus grand défi des deux prochaines années, c'est vraiment d'aller pour pouvoir faire la promotion d'une nouvelle façon d'héberger les gens. On veut être novateur dans ce qu'on veut offrir. Donc, on est là-dedans. Là. C'est mon projet des deux prochaines années.
Quand on parle de novateur, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire différemment?
En fait, c'est un peu ça, c'est la mixité au niveau de l'hébergement. On parle d'appartements, oui, mais de petits studios aussi pour une clientèle qui, en ce moment... n'a de place qu'en CHSLD. Mais quand on parle d'un jeune de 21 ans lourdement handicapé, les parents ne veulent pas nécessairement qu'il aille en CHSLD. Donc, on veut offrir un milieu de vie avec les soins nécessaires, mais qui soit vraiment dans un milieu où il y a beaucoup de stimulation autre que demeurer à sa chambre ou, bon, regarder la télévision. On veut vraiment que ça soit un milieu de vie très, très actif. Donc oui, on va être très novateur de ce côté-là.
Dans quel contexte un jeune atterrit en CHSLD?
De ce côté-là, c'est vraiment quand on parle de jeunes polyhandicapés avec un niveau de soins très élevé. Donc,
les parents deviennent trop épuisés.
C'est très épuisant, en fait. Il y a des gens qui dorment pas ou dorment très peu la nuit, qui ont des problèmes de santé qui font qui est très difficile au niveau. Ils peuvent être gavés, langés, besoin d'un lève-personne. Donc, ça devient très physiquement difficile aussi pour les parents. Puis, à un moment donné, il y a un enjeu de physique pour les parents aussi de dire jusqu'où on pousse tout ça. Puis nos parents sont vieillissants.
Ouais.
Donc, il y a aussi ça, de voir les parents ne veulent pas nécessairement. Puis Vaudreuil, Soulanges, oui, mais on parle de la Montérégie-Ouest. Donc, quand un hébergement s'ouvre, ça peut être aussi sur de l'autre côté du territoire. Donc, on peut s'en aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vaudreuil-Soulanges, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quand même une grande distance. Donc, le jeune, il peut, le CHSLD, c'est vraiment en lien avec les handicaps multiples et très, très sévères. C'est vers ça qu'on va s'en aller parce que les milieux ne sont pas adaptés à leur vie pour le moment.
Oui, puis je comprends la notion de stimulation, puis le personnel qui œuvre dans ces CHSLD. Bon, on le sait, on en a beaucoup parlé, ils sont débordés, c'est extrêmement difficile. Donc, réussir, c'est pas le même type de il y a une base peut-être, mais c'est pas le même type de stimulation ou de soutien que ces jeunes-là ont besoin.
Effectivement, ils ont besoin d'une stimulation très différente, multisensorielle, ce qui n'est pas nécessairement à faire. On n'a pas le temps en CHSLD en ce moment, on l'a dit, et il manque de personnel, c'est difficile. Donc, si on ajoute, je vais dire, ce fardeau-là, ça devient plus difficile. Donc, ces jeunes-là seront, ils auront les soins de base, définitivement, mais par la suite, au niveau de la stimulation, il n'y en aura pas au niveau dont ils ont besoin.
OK. Et comment vous accompagnez les parents aussi là-dedans? Parce que je peux juste m'imaginer si j'étais mère d'un enfant qui a ce type de défi, est-ce qu'il n'y a pas une certaine culpabilité quand on réalise qu'on est plus capable là, de s'en occuper? Ou même, à la limite, même le répit, peut-être des fois on demande du répit quand déjà on aurait dû le demander le mois passé.
En fait, les parents, de façon générale, et je vais dire à 99% du temps, se sentent coupables. Se sentent coupables de la vie qu'ils ont, de la vie, du temps qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Parfois, ils ont l'impression de les laisser un peu à eux-mêmes, même si ils étirent au maximum toutes les possibilités. Donc oui, ça, c'est très... On accompagne les parents vraiment plus intellectuellement à un peu voir que non, on n'est pas dans, on n'abandonne pas son enfant quand on décide qu'il doit changer de milieu de vie. On parle toujours de placer un enfant. Nous, on dit on ne place pas un enfant.
Ah, oui.
C'est la différence, c'est de dire on choisit à ce moment-là qu'on n'est plus en mesure de le faire, donc on n'a pas le choix. Puis c'est un peu ça qu'on veut laisser aux parents, c'est le choix de dire de le faire avant que tout ça arrive. Là. On veut vraiment être en amont puis dire, profitons de ce temps-là pour justement vivre de belles choses.
Je pense que tous les parents, grands-parents, l'écoutent, peu importe qu'ils aient des enfants qui présentent un handicap ou autre, comprennent cette notion-là de pression qu'on se met par un peu. Heureusement, dans le fond, vous êtes des partenaires familiaux.
Tout à fait. On essaie vraiment d'offrir aux parents aussi des petites formations de temps en temps ou de l'information gouvernementale ou sociale, communautaire. Donc, on essaie vraiment d'accompagner les parents de ce côté-là. C'est pas évident. Quand ils ont du répit, ils veulent pas nécessairement venir dans une rencontre, évidemment. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'offrir des temps, mais aussi avec des gardiens, gardiennes, des accompagnateurs pour pouvoir leur offrir ce temps-là à venir à des rencontres de parents pour en apprendre un petit peu plus.
Si on parle peut-être des cas, j'oserais dire plus légers, qui demandent moins d'adaptation, il y a tout le volet sensibilisation de la communauté en général. Donc, je regardais sur votre site Internet, il y a un calendrier de plein d'activités, même des voyages. Comment ça se passe?
En fait, on a différentes activités qui peuvent répondre aux différents types de clientèle qui viennent chez nous. Donc, oui, on a des sorties au restaurant. On a des activités qui vont se passer un peu plus à l'intérieur de nos locaux. On va aller à l'extérieur, on va jouer aux quilles. Ça, c'est le samedi quilles. C'est non négociable.
Je comprends que c'est un rituel installé que les gens
Absolument.
Apprécient.
Absolument. Donc, c'est vraiment une activité qui est faite là, avec grand bonheur. Et puis, il y a tout le volet un peu plus d'intégration au niveau des voyages. Effectivement, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. On avance dans le temps avec le nombre de journées qu'on passe en voyage aussi. Donc, là, on fait des 2, 3, 4 nuits à l'extérieur. Mais on essaie de faire vivre des expériences très différentes à nos membres. octobre. La dernière fois, ben c'est la semaine dernière, on est allé 4 jours à Tadoussac.
C'est tout le... Les baleines.
Absolument. Donc, on est allé en bateau, mais juste ça, c'est une expérience. On doit faire l'épicerie, tout le monde ensemble. On avait 10 participants, 3 accompagnateurs. Donc, ils doivent faire l'épicerie, travailler ensemble dans un hébergement. On loue un chalet, on fait la vaisselle, on fait le... Donc, on participe à la vie communautaire. Et puis, c'est toute une expérience. Puis, quand on va sur un bateau, par exemple, ben les gens vont avoir tendance à nous poser des questions, savoir « Ah, qu'est-ce que vous faites? » Ça se voit bien que, bon, il y a des difficultés, mais les gens sont curieux de plus en plus. On a de moins en moins de jugement, plus de questions. Puis moi, j'adore, je préfère me faire poser des questions. Donc, on est vraiment dans la sensibilisation de la communauté.
Est-ce qu'on pourrait penser que les enfants servent souvent de vecteur pour les parents parce qu'ils sont sans priori, ils vont poser des questions, même que des fois les parents se disent « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'elle vient de poser, ma fille vient de poser cette question-là », mais ça amène justement à avoir des belles discussions.
Moi, j'utilise les enfants. Quand je vois que les enfants sont curieux, parce que je l'ai vécu dans mon quotidien aussi.
Oui, oui.
Donc, vraiment, puis, ben, je vais faire un parallèle. Anaïs était en mesure de dire ses difficultés. Donc, un enfant qui avait des questionnements, Anaïs s'approchait de cet enfant-là pour l'expliquer. Donc, je fais la même chose dans ma vie professionnelle. Donc, on voit les gens, on pose des questions. Je veux que les gens posent des questions parce que c'est la meilleure façon de comprendre un peu ce qui se passe avec notre clientèle, puis dans quelle mesure ils sont capables d'être, de faire partie d'une vie sociale très importante.
Oui. Donc, le message est lancé. Posez des questions. Posez des questions. Je crois que votre parcours de vie vous menait tout naturellement vers le défi qui est le vôtre. Peut-être une dernière question, là. Combien d'employés vous êtes, Mietz?
En fait, on est près d'une 50aine d'employés en ce moment. Donc, il y a les quand on parle de la période estivale, on va jusqu'à une 50aine d'employés. Sinon, on est une 40aine d'employés temps plein, temps partiel durant l'année. On est ouvert 7 jours par semaine. Donc, j'ai besoin de monde un peu partout. Une grande majorité d'éducateurs spécialisés ou étudiants en éducation spécialisée, mais un peu formation connexe aussi. Donc, on a une... près d'une 50aine d'employés, là.
Merveilleux. J'invite les gens à aller sur votre site Internet. Vous allez d'ailleurs découvrir le parcours d'une employée aux Jeux paralympiques, basketball en fauteuil roulant. C'est extraordinaire de voir tout ce que vous faites. On vous souhaite la meilleure des chances. Et s'il y a des bénévoles à l'écoute, 3 heures d'amitié, je pense que ça peut se placer dans notre agenda. Merci beaucoup, Mélanie Gauthier, directrice générale parrainage civique Vaudreuil-Soulanges.
Merci beaucoup.
Merci.